Lorsque l'on commence à étudier la correspondance des consuls et diplomates français dans le cadre de la guerre civile espagnole, on est très vite en fait amené à constater que la très grande majorité d'entre eux en fait fait preuve d'une forte hostilité à l'égard de la République espagnole et que nombre de ces agents semblent avoir une certaine sympathie pour les insurgés qui se soulèvent donc après le 18 juillet, à partir du 18 juillet 1936. Alors on pourrait expliquer assez aisément ce constat par une formule un peu générale sur le conservatisme qui caractériserait les fonctionnaires du Quai d'Orsay de cette époque. Néanmoins, en fait, cette explication n'est pas tout à fait satisfaisante. Tout d'abord parce qu'on ne peut pas réduire l'ensemble du corps diplomatique et consulaire français à un conservatisme monolithique. Et ensuite parce que cette hostilité à la République dont font preuve ces agents, qui sont témoins du coup d'État du 18 juillet, n'était pas inévitable. Et à titre d'exemple, l'historien français Yves de Necher a très bien montré que l'ambassadeur Jean Herbette était dans un premier temps favorable au gouvernement de Frente Popular issu des élections de février 1936 et qui lui a même accordé son soutien jusqu'au début de la guerre avant de tourner sa veste et de se prononcer pour la reconnaissance de Franco. Donc on voit bien que ce n'était pas un mouvement inévitable. Et donc ce que je propose à travers cette communication, c'est d'explorer peut-être une nouvelle piste qui permettrait d'expliquer ce soutien presque unanime, des diplomates et consuls français en faveur justement du coup d'État contre la République, en m'intéressant finalement à l'impact qu'ont eu sur eux les discours contre-révolutionnaires qui ont été produits par les droites espagnoles au moment justement de la formation du gouvernement de Frente Popular. En effet, c'est au moment de ces élections en février 1936 que se déploie à travers la presse et aussi à travers les interventions des porte-paroles de la droite au Cortés un discours contre-révolutionnaire assumé qui inocule en fait un environnement de guerre civile qui vise en partie à rompre avec la légalité et la normalité démocratique. Et c'est ce qu'a souligné notamment un historien, Eduardo González Calleja, qui a montré en fait que cette action contre-révolutionnaire prend la forme de ce qu'il appelle un encadrement culturel, c'est-à-dire d'efforts stratégiquement conscients entrepris par des groupes de personnes afin d'élaborer des conceptions communes du monde et d'eux-mêmes qui légitiment et motivent l'action collective. Et en fait, cette action prend la forme d'une justification préalable de la rébellion militaire face à un prétendu état de chaos social et face à la menace d'un supposé coup d'état communiste qui serait en préparation, organisé avec la complicité du Frente Popular. Alors, il semble en fait que les diplomates et consuls français ont été particulièrement exposés et sensibles à ces récits, et c'est ce que je vous propose en fait d'aborder maintenant en observant dans un premier temps comment ces discours en fait ont été intégrés par les représentants français en Espagne pendant l'hiver et le printemps 1936, puis comment en fait les événements qui suivent le coup d'État ont pu être interprétés par ces mêmes agents à l'aune justement de ce récit contre-révolutionnaire. Le discours contre-révolutionnaire des droites espagnoles n'a pas attendu la formation du gouvernement de Frente Popular pour se déployer. Il se trouve au cœur de la stratégie électorale des droites espagnoles, qu'il s'agisse des monarchistes ou de la CEDA. C'est ce que constate l'ambassadeur Jean Herbette dès le mois de janvier, lorsqu'il rapporte en fait au Quai d'Orsay que les partis de droite ont concentré leur campagne sur ce qu'ils appellent la menace révolutionnaire. Et en effet, le journal monarchiste ABC présente la lutte électorale comme une lutte entre révolution et contre-révolution, tandis que le leader de la CEDA, Gil Robles, annonce lui la bataille définitive contre la révolution et cherche à organiser un front national anti-révolutionnaire pour les élections avec les monarchistes. La menace révolutionnaire est donc déjà agitée pour mobiliser l'électorat de la droite, mais il affecte aussi les représentants français qui sont présents en Espagne. Jacques Bigourdin, par exemple, l'agent consulaire français à Santa Cruz de Tenerife, associe la grève qui a lieu dans sa ville en janvier, une grève très importante au sein de la Fabrica Electrica de cette ville, à toute une série de délits de droit commun qui vont de l'assassinat d'un propriétaire à divers vols à main armée. Donc il fait déjà cette association entre délits de droit commun et mobilisation sociale. Or, ces événements qu'il lie entre eux, en fait, s'expliqueraient par le contexte des élections législatives de février, selon lui, mais aussi par la présence d'agitateurs professionnels qui auraient fait de Lille l'un des foyers les plus actifs du communisme espagnol. Quant à Georges Moreau, le consul de France à Séville, il informe que parmi les personnes avec lesquelles il s'est entretenu des prochaines élections, qui appartiennent généralement plutôt au milieu, à l'élite économique de la ville, beaucoup paraissent, selon lui, craindre des désordres. Aussi, avant même que le Frente Popular remporte en fait la victoire, les représentants français sont particulièrement attentifs aux signes qui annonceraient les débuts éventuels d'un mouvement révolutionnaire en Espagne. Et à titre d'exemple, le consul de France à Bilbao, René Casteran, considère qu'un résultat qui donnerait dans l'ensemble du pays la victoire au Front Populaire déclencherait certainement une agitation à tendance bolchévisante dans la région de Santander, où selon lui, le socialisme est mené par les éléments extrémistes du parti. Et de fait, l'annonce de la victoire du Frente Popular est aussitôt suivie par de nombreuses mobilisations de la gauche ouvrière. Et le consul français anticipe alors des incidents graves ou des mouvements violents qui seraient causés, selon eux, par des esprits très surexcités par la victoire des gauches. Donc c'est le cas notamment à Saragosse, à Barcelone et à Alicante. Par ailleurs, ces agents vont s'empresser de rapporter les accrochages violents qui ont lieu avec la troupe, justement encore à Barcelone et à Saragosse, mais aussi les incendies de bâtiments religieux et les attaques contre les partisans de la droite et de leurs locaux à Cadiz, à Cordoue et à Séville. Le consul à Séville, Georges Moreau, va même jusqu'à mentionner des exactions à Huelva. Or, les agents français, en fait, semblent lier ces désordres à une agitation révolutionnaire dont ils s'efforcent de montrer la moindre trace. Le consul à Valence, par exemple, Maurice Marcassin, note que le défilé qui célèbre la victoire du Frente Popular à l'issue des élections a été précédé par de nombreux drapeaux soviétiques, tandis que Jean Trémoulet, le consul à Barcelone, indique que les manifestants dans cette ville ont été précédés par des drapeaux rouges. Alors, face à ces nouvelles alarmantes, l'ambassadeur français Jean-Herbert s'inquiète. Il s'enquiert auprès de Maurice Marcassin, le consul à Valence, sur la nature de cette agitation. Est-ce qu'elle s'inscrit dans la campagne électorale et dans ses suites, ou est-ce qu'elle ouvre une période de représailles politiques et de transformation sociale? Il interroge aussi le consul à Séville, Georges Moreau, sur le sens à donner aux manifestations à tendance révolutionnaire qui ont eu lieu à Cordoue. Est-ce que finalement cela marquerait le début d'une période, de nouveau, de représailles et d'action directe? Alors les deux consuls ne sont pas très rassurants. Ils expliquent que certes ces débordements s'inscrivent bien dans la poursuite de la campagne électorale, mais ils indiquent aussi que les éléments révolutionnaires espèrent néanmoins leur donner une signification plus grande. Marcassin précise qu'une période de représailles politiques est évidemment souhaitée par les exaltés, tandis que Georges Moreau souligne que la campagne électorale et le triomphe des gauches qui en est résulté ne sont assurément pas étrangers à ces désordres. Les esprits sortent très échauffés de cette période et les paysans, qui se disent communistes ou anarchistes, sont bien arriérés. Comment les promesses qui leur ont été faites pourront-elles être tenues? Et il conclut, il ne serait donc pas surprenant que surviennent des événements plus graves encore que ceux dont nous nous occupons aujourd'hui. Or, pour le consul à Séville, ce qui permettrait finalement de conserver à ces événements un caractère exceptionnel plutôt que de les considérer comme un prélude à des mouvements plus graves, en fait, tout cela dépendrait de l'attitude qu'adopteront les autorités espagnoles. Et il est rejoint dans son jugement par son collègue à Valence, qui estime pour sa part qu'une période de représailles politiques s'ouvrirait seulement dans le cas où le gouvernement espagnol se montrerait faible. Et donc par ces précisions, en fait, il commence à suggérer finalement que le gouvernement de Frente Popular pourrait être plus ou moins complice de ces désordres, en tout cas complaisant. Et cette idée fait écho en fait à la campagne contre-révolutionnaire qui se déploie au même moment dans la presse conservatrice de l'époque, et notamment dans les pages du quotidien monarchiste ABC, qui présente en fait la politique du Frente Popular comme un cheval de Troie soviétique. Or, cette idée semble faire son chemin auprès des représentants français. On en retrouve en tout cas la trace par moment, notamment lorsque le consul de France à Barcelone, Jean Trémoulet, va incriminer, en fait, lorsqu'il survient une fusillade en marge d'une manifestation, il incrimine la responsabilité de la police, parce que selon lui, elle a eu la faiblesse de laisser passer justement un drapeau rouge. Et cette même passivité face à l'attaque des locaux politiques qui appartiennent à la droite est dénoncée aussi par le consul de France à la Corogne, Léon Perritier, qui écrit « La police, spectatrice impassible de tous ces incidents, n'est pas intervenue, n'ayant, paraît-il, reçu aucun ordre à cet égard. » Et il explique que cette agitation crée un état d'esprit qui, s'il continue à ne pas rencontrer d'obstacles dans toutes ces manifestations, finira forcément par devenir dangereux. Et c'est un constat que partage aussi le consul à Séville, Georges Moreau, qui écrit qu'il lui semble bien que les autorités responsables ne font pas montre d'une grande énergie pour maintenir l'ordre. Or, c'est précisément cette licence de la part du gouvernement de Frente Popular qui permettrait, selon lui, le développement d'un mouvement révolutionnaire en Espagne. Il écrit qu'en tout cas à Cordoue et dans la province, les extrémistes se livrent ouvertement à une propagande effrénée. Ils donnent l'impression, me dit-on, qu'ils sont les maîtres absolus, et l'occasion va se présenter sans doute de montrer jusqu'où va leur puissance. Alors, ce discours alarmiste n'intervient pas à n'importe quel moment. Il correspond aussi à une période où le journal catholique El Debate publie une série d'ordres que le Comintern aurait dictés afin d'organiser les paysans espagnols en détachements qui seraient capables de combattre l'armée et la garde civile. Et aussi à un moment où on voit proliférer un certain nombre de faux pamphlets qui sont rédigés par le phalangiste Tomás Borrás, qui contiennent en fait les plans détaillés d'une révolution communiste qui serait en préparation. Alors l'un de ces documents, l'Informe Confidencial numéro 11, évoque un soulèvement communiste qui doit avoir lieu entre le 10 mai et le 29 juin 1936 afin d'instaurer un soviet national qui serait présidé par le leader socialiste Francisco Largo Caballero. Et il est associé à un autre rapport, l'Informe Confidencial numéro 13, qui ordonne, lui, l'exécution immédiate de tous les détenus contre-révolutionnaires qui auraient été rassemblés au préalable par les milices ouvrières grâce à l'établissement de véritables listes noires. Or, il est évident, en fait, que les diplomates et les consuls français ont eu connaissance de ces documents et leur ont accordé un certain crédit, une certaine importance. Et de fait, en fait, ces fausses instructions créées par Tomás Borrás ont été remises à René Bonjean, le premier secrétaire de l'ambassade, qui est en charge en fait des relations avec la presse. Ils lui ont été remises le 27 mai 1936 par le journaliste hongrois Andrés Reves, qui est en fait déjà en relation étroite avec l'ambassade de longue date et qui s'occupe des questions internationales au quotidien monarchiste ABC. Mais ce contenu en fait, des campagnes semble être déjà parvenu auprès des consuls français depuis plusieurs semaines. On note notamment que Pierre Desmarty, donc le consul à Malaga, décrit par exemple l'exercice militaire sans armes que font publiquement dans la ville les organisations de jeunesse des partis de la gauche, là je le cite, avancée, donc des exercices sans armes en prévision du défilé du 1er mai, pardon. Et il note à cette occasion qu'il y aura lieu de contrôler si ces exercices militaires continuent après la fête, car il s'agirait bien alors de la constitution de milices ouvrières. Et là, on voit aussi le poids de ces articles d'El Debate qui ont été publiés quelques semaines auparavant. Deux semaines plus tard, il écrit aussi que le gouverneur de Malaga s'attendrait à un conflit armé prochain avec les syndicats. Et il rapporte de nouveau une rumeur similaire à la fin du mois de mai, lorsqu'il écrit qu'il me revient de divers côtés que la Confédération nationale du travail prépare un mouvement révolutionnaire qui pourrait éclater à partir du 28 courant. Et donc on voit bien à travers cet exemple-là comment cette campagne contre-révolutionnaire crée une ambiance qui fait que, aux yeux des diplomates, en tout cas, cette menace révolutionnaire prend consistance. Et on voit bien donc à la fois le rôle de la presse, mais aussi, à travers les dépêches des consuls, le rôle de la rumeur que colporte l'entourage de ces consuls et les individus qu'ils côtoient dans le cadre de leur fonction. Or, comme l'a souligné Eduardo González Calleja, ce récit contre-révolutionnaire, en fait, attisent la panique des classes moyennes et supérieures et finissent par les conduire à croire que seule l'armée pourrait les sauver. Et le leader monarchiste Calvo Sotelo en tire lui-même profit lorsqu'il appelle en fait à l'intervention de l'armée dans un discours qu'il prononce au Cortés en juin 1936, parce qu'en fait il considère que l'armée finalement est l'incarnation même du principe d'autorité et la colonne vertébrale de la nation. Or, il paraît évident en fait qu'une bonne partie des consuls français partagent aussi cette idée que l'armée constitue en dernier lieu un rempart face aux mobilisations sociales et à la menace révolutionnaire. En effet, Jacques Bigourdin, donc l'agent consulaire à Santa Cruz de Tenerife, lorsqu'il rendait compte justement en janvier 1936 des conflits sociaux et des mouvements révolutionnaires qui se déploient dans sa ville, il précisait à ce moment-là qu'à titre de facteur favorable, on doit cependant noter le fait que le pouvoir militaire a pris en main le maintien de l'ordre public. Un mois plus tard, en février, l'agent consulaire à Alicante, Gustave Delegue, lui met en garde contre la reprise des violences si on enlève trop rapidement l'état de guerre, qui en fait, l'état de guerre consacre l'intervention de l'armée dans la gestion de l'ordre public, y compris dans son versant judiciaire. Le consul de France à Séville, Georges Moreau, lui estime que ce qui serait à souhaiter, c'est que si ces désordres se produisent sur quelques points, ils puissent être réprimés sans tarder. Et il considère que cette tâche devrait mobiliser des forces considérables, suggérant de nouveau, semble-t-il, l'intervention de l'armée. L'agent consulaire à Cadiz relate, quant à lui, en mai, que face à des manifestations violentes, de nombreuses forces de troupes et de gardes ont circulé dans les rues et que c'est justement grâce à ces mesures que l'ordre n'a pas été troublé davantage. Et il précise alors que les manifestants craignent plus les soldats que les gardes. Et donc on voit bien comment l'armée finalement apparaît aux yeux d'une partie du corps consulaire français comme la garantie essentielle du maintien de l'ordre en Espagne. Et effectivement, ces consuls partagent cette idée avec les porte-parole de la contre-révolution espagnole. Aussi, lorsque se produit le coup d'État le 18 juillet 1936, un grand nombre de consuls semblent accueillir avec un certain soulagement ce soulèvement militaire. Et les consuls qui se trouvent dans les territoires rebelles durant les premiers mois de la guerre soulignent presque unanimement l'ordre qui règne depuis la prise de pouvoir des militaires. Durant les premières semaines qui suivent le soulèvement à Séville, le consul de France, Georges Moreau, décrit sa circonscription consulaire comme « tranquille ». Le consul à Las Palmas, Pierre Etier, quant à lui, va rapporter dès le 25 juillet que la vie a maintenant repris son cours, la circulation a été rétablie et le travail recommence peu à peu. Et il ajoute que les cinémas fonctionnent également. Émile Lamarthe, le consul général à Saint-Sébastien, fait part aussi de considérations similaires après la prise de la ville par les insurgés en septembre 1936. Il écrit qu'une grande animation règne dans la rue. Il était impossible de trouver place hier soir dans certains lieux publics, cafés et restaurants. Et il conclut qu'à 10h30 du soir, la rue était tranquille, comme avant le 18 juillet. L'agent consulaire à Huelva, enfin, considère quant à lui que l'ordre a été assuré comme jamais il ne l'a été. La répression sanglante que mènent les insurgés, quant à elle, est très peu évoquée par les consuls. À Séville, Georges Moreau ne semble en faire aucune mention dans sa correspondance, alors que c'est précisément sa circonscription consulaire, c'est vraiment là où les violences atteignent le plus haut degré. Il préfère à la place relayer une motion de la colonie française de Cordoue qui dénonce les atrocités sans nom commises par les affiliés du Front populaire. Émile Lamartre, à Saint-Sébastien, adopte une posture similaire. Il évoque à peine la répression, au conditionnel d'ailleurs, et il préfère lui aussi transmettre en fait à l'ambassade justement le rapport officiel des autorités de Burgos concernant les atrocités commises par les hordes marxistes dans le sud de l'Espagne, auquel faisait référence aussi Celia Kerén. Un rapport qui lui a été confié par ailleurs par le général insurgé Martinez Anido, avec qui il entretient, et je cite, « d'excellentes relations personnelles ». Donc tout cela en fait conduit à offrir finalement un contraste saisissant entre l'ordre qui caractériserait en fait les territoires insurgés et les territoires républicains où régnerait le chaos, et cela sert finalement à justifier la répression que mènent les rebelles, puisque finalement elle ne serait qu'un mal nécessaire au rétablissement de l'ordre. Après la prise de Bilbao, en juin 1936, René Casteran écrit que sans nier la réalité des trop nombreuses exécutions qui ont eu lieu après le 19 juin dernier, on peut dire que dans une large mesure, elles ont été dictées par les nécessités militaires qu'imposaient à ce moment la discipline et l'autorité. Et le conseiller de l'ambassade, Jean-Baptiste Barbier, considère quant à lui que les exécutions ordonnées du côté nationaliste s'effectuaient avec bien plus d'ordre et de méthode que celles déclenchées du côté républicain, où les tueurs anonymes se répandaient partout. Il rejette par conséquent toute assimilation entre les tueurs anonymes et ses officiers, prenant part nominalement et sérieusement à la responsabilité des sanctions qu'ils appliquaient aux auteurs d'attentats et de crimes répugnants. Et donc on voit bien en fait comment finalement un nombre important de diplomates et de consuls se sont parfaitement appropriés cette image de l'armée comme garante de l'ordre public, et cette image qui est véhiculée en fait par le discours contre-révolutionnaire des droites espagnoles. Et on peut voir aussi en creux comment l'autre dimension de ce discours contre-révolutionnaire, c'est-à-dire l'évocation d'un péril communiste imminent, se retrouve aussi activée par la situation des territoires républicains au lendemain du coup d'État. En effet, le coup d'État dans la République se traduit par un effondrement généralisé de l'ordre public, sur des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas forcément. Donc durant les premières semaines du conflit, les consuls et diplomates qui se trouvent en zone républicaine, décrivent les effets de ce qui s'apparente à une véritable prise de pouvoir des révolutionnaires. Jean Herbet dénonce le développement de l'anarchie et du désordre à Saint-Sébastien, où, selon lui, dans chaque commune, un comité prétendant représenter le Front populaire se considère comme à peu près souverain. Maurice Marcassin, à Valence, écrit que les ministres ayant quitté la ville pour Alicante, le nouveau gouverneur étant par ailleurs le chef suprême des milices, nous sommes maintenant sous l'autorité d'un comité exécutif. Il ajoute quelques semaines plus tard que les juges ont été dépossédés de leurs fonctions, Un certain nombre sont en prison, le drapeau rouge et noir flotte sur le palais de justice. Et ce constat est aussi partagé par René Bonjean, qui est alors chargé d'affaires à Madrid, lorsqu'il rapporte qu'aux tribunaux de droit commun se substituent des tribunaux d'exception qui échappent entièrement au contrôle du gouvernement, ce qui entraîne en fait un véritable régime de terreur sur la capitale. Or, ce chaos en fait... qui se constitue des, pardon, ce chaos constitue dès les premiers jours en fait un motif d'abandon de la République aux yeux de l'ambassadeur Jean Herbette. Dès le 10 août 1936, il considère en fait que nous nous acheminons vers un état des choses où il nous sera impossible de continuer à reconnaître le gouvernement de Madrid pour la simple raison qu'en fait ce gouvernement aura cessé d'exercer une autorité quelconque. Et le 15 septembre, il constate en fait le divorce entre le gouvernement républicain et la légalité, et il appelle le ministre des Affaires étrangères à en examiner les effets diplomatiques, en suggérant en fait pour la première fois un rapprochement avec les insurgés. Or, il n'est pas anodin que Herbette se prononce ouvertement pour l'abandon de la République à ce moment-là, puisque ça survient en fait quelques jours après seulement la formation du gouvernement de Francisco Largo Caballero, auquel participent justement deux ministres communistes. Et donc on peut aussi y voir probablement les effets des faux pamphlets que Tomás Bora avait créés et qui avaient été diffusés dans la période précédente, et qui prévoyaient notamment l'instauration d'un soviet national qui serait présidé par le leader socialiste. Et de fait, l'ambassadeur écrit en novembre 1936 que la guerre civile qui a éclaté le 18 juillet se préparait en réalité depuis plusieurs mois. Il met notamment en cause la propagande révolutionnaire qui tendait à constituer un front unique qui comprenait en fait les socialistes de la tendance de Largo Caballero, les communistes et les anarchistes. Et donc il en vient à ce moment-là à justifier le soulèvement militaire qui n'aurait été qu'une réponse à une menace révolutionnaire. Et il conclut qu'en définitive, c'est la politique des partis espagnols d'extrême gauche qui est la cause principale des malheurs que la République espagnole a subis. Et l'ambassadeur ne va pas dévier de cette idée. Un an après le coup d'État, il revient sur ses origines et il écrit qu'il y avait finalement deux soulèvements préparés, l'un par les militaires, l'autre par les révolutionnaires. Et quand les militaires se résolurent à marcher, le mouvement révolutionnaire commença aussitôt avec une envergure supérieure. Alors les militaires hésitants n'eurent plus le choix que de périr ou de vaincre. Et donc finalement, on voit bien comment Herbette fait sien ce raisonnement contre-révolutionnaire qui avait été instillé depuis... février 1936, et qui sera par ailleurs au cœur de la propagande franquiste pendant les années d'après-guerre. Et donc, je vais conclure. L'objectif de cette communication était finalement de montrer comment ce discours contre-révolutionnaire qui se déploie à travers la presse conservatrice espagnole dans la première moitié de l'année s'est insinué en fait dans les perceptions que les consuls diplomatiques, que les consuls et diplomates français ont pu avoir des événements, au point en fait d'irriguer de manière indiscutable le contenu de leurs télégrammes et dépêches. Or, cette imprégnation en fait des agents français par le discours contre-révolutionnaire a fortement contribué à orienter leur interprétation du coup d'État militaire, qui, en fait, loin d'apparaître comme un soulèvement violent et subversif contre un gouvernement légalement institué et issu des urnes, il aurait apparu, à la majorité d'entre eux, comme une opération de rétablissement de l'ordre face à l'anarchie que connaissait alors l'Espagne et face à la menace imminente d'une révolution en gestation. Et la situation en fait révolutionnaire que connaît la zone républicaine après le 18 juillet 1936 est perçue comme une validation a posteriori de ce discours asséné par les droites depuis l'hiver 1936, alors qu'on sait en fait en réalité que elle est en grande partie le résultat de ce même soulèvement. Mais quoi qu'il en soit, l'appropriation en fait de ce récit contre-révolutionnaire par les diplomates et consuls français joue un rôle essentiel dans la réacceptation de la répression sanglante qui se déploie dans les territoires insurgés, mais aussi et surtout dans la légitimation du coup d'État. Je vous remercie.